Suivez Priorité Santé avec les sociétés Sunois Assurance qui, au Mali et en Centrafrique, ont fusionné avec les sociétés Alliance et portent désormais la dénomination Sunois Assurance. Sunois Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Raphaël Constant.
Bonjour à toutes et à tous. Une épidémie qui concerne l'ensemble de la planète. 6 mois de pandémie de Covid-19 dont nous suivons les retombées sanitaires, économiques et sociales auxquelles s'ajoutent dans certaines régions du monde les tensions politiques et sécuritaires. Nous parlons régulièrement dans Priorité Santé des bilans, des stratégies de riposte, des traitements et bien sûr de l'impact pour les populations. Aujourd'hui, c'est à vous, jeunes auditeurs, que nos micros sont ouverts pour comprendre comment vous vivez cette situation. 2020 est une année génératrice d'inquiétude pour beaucoup de personnes dans le monde entier. Alors, quel est votre ressenti, l'impact psychologique de ces bouleversements? Car au-delà de la prise en charge physique de cette maladie infectieuse, s'est posée très rapidement la question du défi pour le secteur de la santé mentale. Comment cette génération, appelée peut-être demain quand la crise appartiendra au passé, génération Covid, vit-elle cette période si particulière? Est-ce que les incertitudes liées à cette situation inédite ont remis en cause certains de vos projets, vous ont privé de ressources, d'énergie, ou à l'inverse, avez-vous trouvé une nouvelle motivation face à l'adversité? Nous attendons tous vos témoignages et vos questions et nous vous donnons la parole avec nos invités pour vous répondre en direct. Aujourd'hui avec nous deux invités en studio, Dougoukoulo Alpha Oumar Bakonaré, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue clinicien et chargé de cours en langue et société peul à l'INALCO à Paris. Et en face, elle fait sa rentrée aujourd'hui dans Priorité Santé avant de retourner sur les bancs de l'université. Adja Idrissaba, bonjour.
Bonjour.
On vous retrouve tous les mois dans notre émission. Adja, vous êtes étudiante, présidente, fondatrice du club des jeunes filles leaders de Guinée et membre du bureau de l'ONG Equipop du réseau de jeunes féministes de l'Afrique de l'Ouest francophone. Évaluer et prévenir les effets de la crise du Covid-19 sur les enfants et la jeunesse, c'est aussi le rôle de la commission d'enquête parlementaire installée cette semaine à l'Assemblée nationale en France. La députée et ex-ministre Marie-Georges Buffet est à l'origine de ce projet et elle nous dira pourquoi dans quelques minutes. Et en fin d'émission, comme chaque vendredi, nous vous proposons une séance de relaxation avec le docteur Adrien Chaboch, psychothérapeute et hypnothérapeute, cofondateur du centre Vitruve à Paris.
Priorité santé sur RFI.
Âge, immunité, accès aux soins, mais aussi contexte sécurisant ou capacité de résilience. Depuis 6 mois, la crise du coronavirus a bouleversé le quotidien de beaucoup d'entre nous et nous l'avons constaté encore une fois. Nous ne sommes pas égaux en situation d'adversité. Aujourd'hui, nous allons donc nous arrêter sur l'impact psychologique de cette période extrêmement particulière que l'on vive à Barcelone, à Miami, à Kinshasa ou à Paris. Donc, impact et ressenti pour la jeune génération en particulier. Dougoukoulo Alpha Oumar Bakonaré, c'est une crise qui bouleverse nos attitudes et qui peut remettre en cause un certain nombre de projets.
La génération actuelle est une génération très connectée pour qui le monde va très vite. C'est une génération, je dirais, très peu encline à gérer la frustration. Autrefois, il fallait attendre 1 mois, 2 mois avant d'avoir des nouvelles de ses proches. Et donc, c'est quelque chose face à quoi on devait apprendre. On était forcé à rester sur le qui-vive d'une nouvelle qui va venir, mais on était aussi dans l'investissement des proches autour de nous. Et ce qui est en train de se passer, c'est pour ça aussi que c'est un phénomène très traumatique. On n'est pas habitué à ça.
Alors, plusieurs facteurs peuvent aussi s'additionner, crise sanitaire, incertitude politique également dans certaines régions.
C'est vrai. Par exemple, je prends le cas de pays comme le Mali, comme la Guinée, comme le Cameroun. On fait face au Covid, on fait face aux instabilités politiques, on fait face en ce moment au Burkina Faso à des inondations. Donc, ce sont quand même des choses très majeures. Mais lorsque j'entends parler de personnes au Mali, je me souviens il y a quelques mois dans un travail d'éditeur, j'étais en train d'éditer un article, un jeune qui expliquait que le Covid chez lui, tout au nord du Mali, en zone désertique, c'est quelque chose qui finalement ça ne l'inquiétait pas. On n'y croyait déjà pas tant que ça. On pensait à la transhumance, on pensait à la sécheresse. Les choses se rajoutent les unes aux autres. Mais finalement, la vie a un aspect cyclique. Et lorsqu'on est face à plusieurs situations qui nous rendent démunis, on fait avec ce qui vient en premier. Donc, plutôt que les choses qui se rajoutent les unes aux autres, les choses sont de manière séquentielle et on essaie de faire avec.
Hadja Idriss Abba, on sait bien que le coronavirus n'a pas touché toutes les régions du monde de la même manière, mais très concrètement, avec l'arrêt des cours pour certains, le confinement, les pertes d'emplois pour d'autres dans la famille, la jeunesse mondiale a ressenti directement les conséquences de cette crise et ça a aussi pu fragiliser les finances. Est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez sur les réseaux sociaux avec les jeunes ?
Et merci beaucoup. En fait, c'est ce que vient de dire mon frère tout à l'heure, c'est justement ça. C'est-à-dire au-delà des difficultés que rencontraient les jeunes auparavant, avant l'apparition du Covid, et c'est rajouté un choc en plus de tous les maux que rencontre la jeune génération vivante. Et donc, on en parle sur les réseaux sociaux justement, parce que on voit enfin les chiffres monter. On nous parle de 5 000, on nous parle de 10 000 cas. On nous parle des contaminations, des gestes barrières, il faut arrêter, on ferme les boîtes, on ferme enfin tout ce qui est lieu de rencontre pour les jeunes.
Le monde de la nuit.
Donc tout le monde en fait est choqué sur le choc de ce changement brusque et surtout maintenant les retrouvailles c'est sur les réseaux sociaux. Donc ceux qui avaient l'habitude d'aller en plage, ceux qui avaient l'habitude d'aller au cinéma, on se retrouve tous sur les réseaux sociaux et donc le débat est ouvert. Donc on parle du corona, ok, telle personne a été, enfin on nous dit souvent que les jeunes ne sont pas souvent victimes du corona et que c'est les générations vieillissantes, c'est eux qui sont souvent contaminés et donc on pense qu'on est on n'est pas trop en fait on ne sait pas, c'est pas facile d'être contaminé et donc on prend pas trop de dispositions face à ce corona et on pense que c'est des questions politiques, voilà, c'est pas une réalité, tu vois. Donc sur les réseaux sociaux, le débat il est houleux parce que il y a eu quand même, faut pas oublier, beaucoup de d'innovation de la part des jeunes quand on voit sur TikTok, sur les
sur
Facebook et tout. Donc on a créé des moyens pour nous occuper sur les réseaux.
Vous restez avec nous, nous allons nous retrouver dans quelques minutes avec les témoignages et les questions de nos auditeurs. Comprendre quels sont les effets de cette crise pour la jeune génération, c'est justement la tâche confiée à une nouvelle commission d'enquête installée il y a quelques jours à l'Assemblée nationale en France. Un groupe qui a pour mission précise de mesurer et prévenir les effets de la crise de la Covid-19 sur les enfants et la jeunesse.
RFI.
Bonjour Marie-Georges Buffet.
Bonjour.
Vous êtes ex-ministre, député et rapporteur de cette commission installée ce mardi et vous en avez présidé d'ailleurs la première réunion. Dites-nous comment vont se dérouler vos travaux.
Eh bien, nous allons commencer toute une série d'auditions. Dès jeudi prochain, nous auditionnons tout au long de la journée les associations de jeunesse, les syndicats étudiants et les syndicats lycéens. Puis, le jeudi d'après, nous allons entendre les pédiatres et les pédopsychiatres sur les suites sanitaires, mais aussi psychologiques pour notamment les jeunes enfants. Et nous aurons toute une série d'auditions qui vont se poursuivre. Nous allons auditionner aussi les différents ministères concernés. Nous allons auditionner des recteurs. Voilà, toute une série d'acteurs et d'actrices qui peuvent nous apporter à la fois la mesure de ce qui s'est passé et ce qui se passe, puisque nous ne sommes pas sortis de la pandémie, et les erreurs à ne pas reproduire, les recommandations à faire au niveau des différentes institutions.
Alors d'abord, un constat sur les difficultés particulières rencontrées par cette jeunesse ces dernières semaines, ces derniers mois. Je pense à l'école à distance, l'anxiété généralisée, la liberté de mouvement et de rencontre entravée.
Oui, les pédiatres insistent sur le fait que, par exemple, des enfants qui ont été privés de contact extérieur avec, en effet, d'autres enfants, mais aussi avec les maîtres, avec voilà, peuvent élaborer une sorte de crainte du contact social, un repli sur leur propre famille. A contrario, des enfants qui ont vécu ce confinement dans des familles où existent des tensions, soit conjugales, soit des tensions envers les enfants, n'ont pas pu s'exprimer dans l'école, n'ont pas pu s'exprimer à l'extérieur, donc il y a beaucoup de non-dits, de choses qui sont rentrées. Aussi parler un peu des plus grands, des étudiants, des bacheliers qui ont eu l'impression de ne pas avoir passé leur examen, il y a un manque, qui se retrouvent dans des universités qui sont pas toujours prêtes à les accueillir dans des conditions sanitaires telles qu'elles sont exigées, et donc un peu ce mal-être de ces jeunes filles, ces jeunes gens qui passent une étape extrêmement importante de leur vie, ils rentrent dans l'enseignement supérieur. Souvent, ils sont dans les chambres de cité universitaires ou dans des studios, etc. Et ils sont dans ces incertitudes par rapport à leur cursus universitaire. Et donc, il faudra aussi travailler sur ces questions. Donc, il y a tous ces aspects psychologiques. Et puis, il y a aussi le suivi médical, tout simplement. Vous vous rappelez que pendant le confinement, beaucoup de médecins témoignaient d'avoir des cabinets qui étaient vides. Les hôpitaux disaient qu'ils n'avaient plus de demande de rendez-vous. Donc, le suivi des maladies chroniques pour les enfants et les jeunes, le suivi des vaccins, notamment pour les tout jeunes enfants, etc., a pu ne pas être effectué dans différentes familles. Donc, là aussi... il faut voir quelles mesures, si de nouveau on devait connaître un tel confinement, il est urgent de mettre en place.
Donc, constat, réflexion, proposition, est-ce que vous avez reçu, avec les autres députés de cette commission d'enquête, Marie-Georges Buffet, des assurances que les pistes retenues à l'issue de leurs travaux pourraient trouver des traductions concrètes ?
On n'a pas d'assurance. Ce qui est certain, c'est que plus nos travaux vont toucher différents acteurs et actrices, plus nous allons pouvoir travailler à des propositions extrêmement précises et concrètes, et plus nous allons les faire connaître au niveau public, grâce à l'audition de tous ces hommes et ces femmes qui agissent dans cette période de pandémie. Je pense que nous serons à ce moment-là entendus.
Merci beaucoup, Marie-Georges Buffet, d'avoir répondu à nos questions. Bonne journée.
Bonne journée.
Les autorités qui réfléchissent à l'impact de cette crise pour la jeunesse. Alors, pour comprendre, écoutons-les, toujours en compagnie de nos deux invités. Dougou Koulo Alpha Oumarba Konaré, psychologue clinicien, et Adja Idriss Abba, étudiante et militante des droits des jeunes et des femmes.
Allô ? Priorité santé. Sur RFI.
Et d'abord, la parole à Elvira, jeune femme qui nous appelle de Florence en Italie. Bonjour Elvira.
Bonjour Raphaël.
On vous écoute.
Alors, on va parler des impacts du coronavirus, surtout pour nous les étudiants qui s'apprêtons à entrer dans le monde du travail. Bien évidemment, cette période est vraiment difficile, stressante pour nous tous. Parce que, comme nous savons tous, elle a eu beaucoup de répercussions sur le monde du travail, avec la perte de travail, la fermeture des entreprises. Donc, nous appréhendons vraiment, vraiment cette période-là, parce que je n'imagine pas quelqu'un qui va finir l'école et se dire qu'il aura de la peine. C'est vrai que c'est une phase auquel on est tous préparés, mais avec ça qui est encore plus difficile, c'est vraiment... un avenir en fait, en disant ça comme ça. Donc, pour le moment, c'est vrai, on se contente à finir l'école, mais le plus important, c'est pouvoir s'intégrer, pouvoir s'insérer dans la société qui sera vraiment, vraiment difficile pour nous. Et on attend pour voir comment iront les choses et comment on s'adaptera à ça.
Et donc, vous, Elvira, à titre personnel, vous êtes étudiante camerounaise en Italie, c'est ça ?
Oui, oui.
Et comment ça se passe pour vous ? Vous avez arrêté les cours, vous les avez repris. Qu'est-ce qui vous angoisse aujourd'hui ? Dans quel état d'esprit vous êtes ?
Je suis un peu mitigée parce que déjà, on reprend les cours d'ici là, à distance bien évidemment, pour un moment. Et aussi, vu que le personnel universitaire ne nous informe pas vraiment sur le déroulement, comment se dérouleront les choses dans l'avenir, parce qu'ils nous disent juste que pour le moment, on sera à distance, après, on ne sait pas trop. Donc, les choses iront petit à petit, ils nous informeront petit à petit. Donc, déjà, avec ça, on ne sait pas du tout comment vont se passer les cours exactement, comment se passeront les examens et qu'on sorte. Donc, sur ce point-là, nous sommes encore sur la fin, disons, surtout moi qui suis en fin de parcours, donc je suis un peu là, j'observe, et
Vous êtes stressée.
Ouais, beaucoup même, beaucoup.
Merci beaucoup Elvira pour votre témoignage. Je me tourne vers mes invités. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour répondre à Elvira? Adja, on vous écoute.
Bon, franchement, je comprends ce que ressent Elvira, cette angoisse-là. Je suis aussi étudiante comme elle. Et du coup, par rapport au monde extérieur, parce que les études, on le sait, il faut faire aussi la pratique, il faut avoir des stages, il faut travailler dans des entreprises et tout. Moi, ce que je vais dire à Elvira, c'est d'être positive et de garder espoir et d'être vivante malgré les difficultés dans son petit studio. C'est vrai que surtout nous, quand on est loin de nos familles, on est dans des pays, voilà, enfin, on est étranger, pas forcément, tu vois. Donc, c'est très difficile de vivre cela. Et donc, on peut être créatif. Donc, dans nos petits moments seuls où on nous demande de rester confinés, je pense que il faudra profiter de ces moments-là pour nous travailler nous-mêmes et voir qu'est-ce qu'on peut créer et
comme opportunité.
Voilà, pour des opportunités prochaines. Parce qu'il faut garder espoir que ceci ne va pas continuer éternellement. Donc, dans quelques années, ça va finir. Et quand on est étudiant, il faut savoir créer des choses, il faut savoir voilà, entreprendre et tout. Et voilà, ce que je vais conseiller à ma sœur, c'est vraiment de profiter de ces moments-là pour se travailler, très dur, afin de se créer quelque chose justement après cette crise. Qu'on ne se dise pas qu'on a perdu du temps, en fait. On a tout ce qu'il faut, nous, la nouvelle génération d'aujourd'hui. Nous ne sommes pas la génération de la Première et la Deuxième Guerre mondiale. On est vraiment la génération, voilà, du 21e siècle. On a la technologie avec nous et tout ce qu'il faut. Et c'est possible vraiment d'y arriver, mais c'est dur.
Elvira, on vous souhaite plein de courage. Merci Adjaï, on espère que vos projets aboutiront. On va partir maintenant en RDC, on va donner la parole à Pierrot. Bonjour Pierrot.
Bonjour Raphaël.
On vous écoute.
Alors moi, contrairement à la précédente Elvira, c'est que moi j'ai été étudiant l'année passée, j'ai fini mes études, c'était en 2019. Et du coup, déjà, pendant que j'étais en année terminale, il y avait des promesses qui m'avaient été faites par des gens qui avaient des entreprises dans leurs mains. Alors, il s'est fait qu'après les études, il y a eu l'apparition, l'avènement du coronavirus, et c'est là que tous les projets ont commencé à couler. Alors, tous les espoirs que j'avais investis au sujet de commencer une nouvelle vie professionnelle, en tout cas, donc ont pris fin. Et voilà, donc les journées, les quotidiens ont commencé à être un peu insoutenables, quoi.
Ce que vous voulez dire, Pierrot, c'est que vos projets, peut-être pour prendre votre indépendance et quitter la maison familiale, se sont envolés?
Effectivement, donc c'était ça parmi les premiers projets, parce que déjà, trouver les boulots, ça me permettrait de me libérer de la maison familiale et voir comment commencer une nouvelle vie en autonomie, quoi. Donc, mais après les coronavirus, les entreprises ont commencé à chuter une après l'autre, les unes après les autres, et c'est ainsi que donc tout a basculé.
Est-ce que vous avez des projets personnels amoureux?
Oui, des projets amoureux, il y en a déjà. Bon, dans notre société, quand on est vers la fin des études, la plupart des hommes pensent déjà comment trouver une fiancée, le mariage et tout. Alors j'avais tous ces projets avec moi. Heureusement que je n'avais pas une petite amie à qui j'avais promis le mariage, heureusement pour moi. Et en tout cas, ces projets, c'était parmi les premiers projets qui ont subi donc un coup fatal, parce que là, du coup, je l'ai laissé tomber. Et là, j'avais même du mal à continuer avec ma petite amie. Heureusement pour moi qu'elle n'a pas su patienter, et là je me suis libéré d'elle. Là je mène ma vie en solo, ça m'aide beaucoup.
Donc une situation stressante. Dougou Koulo Alpha Omar Bakonaré, qu'est-ce que vous pouvez répondre à notre auditeur Pierrot Lubumbashi?
Je vois qu'il mentionne très peu le mot crise finalement, et ce que ça m'inspire, c'est que les sociétés ont des problèmes systémique très profond. Ce que j'entends de Pierrot, ce sont des choses que j'entendais avant la crise, ce sont des choses que j'entends maintenant aussi bien au Mali, dans différents pays d'Afrique. J'entends des personnes qui cherchent des stages qui n'en ont pas. J'entends aussi une manière très prédatrice de la part des sociétés qui prennent des stagiaires, qui ne les rémunèrent pas, qui souvent les laissent, leur donnent des espoirs pendant très longtemps. Il n'y a pas d'emploi à la fin de la chose. Ça, je pense qu'en soi, c'est déjà quelque chose d'éreintant. C'est une crise en soi, une crise systémique, une crise de fonctionnement de la société. Et je pense que lorsqu'on est dans des périodes particulièrement vulnérables, ce sont des crises qui nous enlèvent de l'espoir. Par exemple, on peut toujours avoir l'espoir d'un mariage, l'espoir d'une vie romantique. Mais là, ça floue tout. Et on se dit, par exemple, je préfère être sans copine plutôt que d'en avoir une avec qui on est dans l'incertitude, pour qui je ne peux rien faire. Donc moi, je dirais qu'il y a ce problème de la société systémique, mais je dirais aussi que c'est aux États de jouer leur rôle, c'est aux États de mettre des règles. Dans certains pays, on peut aussi avoir de l'aide de la part des États. C'est vrai que dans beaucoup de pays occidentaux, il y a plus de moyens, mais on ne voit pas l'État prendre de la place, injecter de l'argent pour encourager les sociétés, et partout dans le monde d'ailleurs, leur donner des injonctions du type « D'accord, vous n'avez peut-être pas les payés, ce que déjà vous ne faisiez pas avant, mais faites-les travailler ». Donnez-leur des tâches, permettez-leur de se former pour qu'après, ils puissent avancer.
Merci beaucoup Pierrot pour votre appel. On va passer à Lomé au Togo où Emmanuel est en ligne avec nous. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Raphaël.
On vous écoute.
Oui, moi c'est Emmanuel. Depuis Lomé, j'ai 26 ans. Et je suis bachelier depuis 2012. Et je peux que... Par manque de moyens, je n'ai pas pu continuer les études et avec des petits jobs pour pouvoir s'en sortir. Et mon projet immédiat, c'était pour cette année, je me suis dit, je veux me lancer dans l'armée, pourquoi pas.
Dans l'armée.
Et il se peut qu'avec cette pandémie du corona, il a tout chamboulé le programme du gouvernement pour le recrutement. Et actuellement, on est dans l'impasse totale et aucune date officielle n'est prévue.
Parce que le recrutement a été repoussé, c'est ça, Emmanuel ?
Oui, il a été repoussé.
Et alors, du coup, aujourd'hui, comment vous vous sentez ? Dans quel état d'esprit vous êtes ? Qu'est-ce que vous ressentez ?
Vraiment de l'inquiétude et de la déception parce que apparemment, ça reste seulement mon seul espoir, si je peux dire ainsi. Mais avec la situation actuelle, on ne sait pas si le recrutement peut se tenir cette année. Et avec mon âge aussi qui est en avance, je crains que avec cette seule opportunité qui me reste...
Pour gagner votre vie.
Pour gagner ma vie, c'est très inquiétant.
Merci pour votre témoignage, Emmanuel. Je me retourne vers vous. Dougou Koulo, Idrissa, Adja, pardon, qu'est-ce que vous pouvez répondre à Emmanuel ?
Justement, je pense que sa situation est très critique, mon frère, mais à ce niveau-là, normalement, les personnes qui sont censées recruter devraient prendre en compte l'année qu'ils ont repoussée, justement avec l'âge, et se dire, ouais, l'année dernière, on n'a pas recruté. Si cette année, on pense à recruter, penser à l'âge quand même de ceux qui étaient censés travailler, en fait, passer au test. Donc, c'est ce que disait tout à l'heure mon frère Dougou Koulo, il faut qu'on sache adapter la situation actuelle avec surtout les projets des jeunes. Donc, si par exemple lui en tant que jeune il n'a pas pu terminer son université, suivre ses cours à l'université et maintenant son seul espoir c'était ça, moi ce que je vais lui demander c'est de ne pas perdre espoir et de faire un plaidoyer, demander, peut-être il n'est pas le seul dans cette situation, il y a plein d'autres qui sont dans la même situation que lui, faire un plaidoyer, demander à ce qu'on prenne en compte ces jeunes qui avaient l'âge de l'année dernière, et donc cette année-là, si ça marche, ok, mais si ça ne marche pas aussi, trouver, il y a d'autres opportunités, on a tellement de métiers à faire en Afrique, on a beaucoup de choses à faire, et ce n'est pas le seul espoir, je suis désolée, nous la jeunesse, ce n'est pas un seul métier qu'on peut exercer. Donc, si tu as la motivation, tu as envie de réussir, tu peux toi-même te créer ton propre métier ou bien aller suivre des formations. Il y a des formations professionnelles. Tu suis les formations au lieu de rester comme ça et dire il faut forcément être militaire pour réussir dans la vie.
Donc, rester créatif, combatif, Fadia. D'autres témoignages après cette pause en musique, tout de suite dans Priorité Santé, Gaëlle Faye avec son titre « Respire ».
Encore l'insomnie, sonnerie du matin. Le corps engourdi, toujours endormi, miroir, salle de bain. Triste face à face, angoisse du réveil. Reflet dans la glace, les années qui passent ternissent le soleil. Ok. Au flash d'infos, les crises, le chômage, la fonte des glaces, les particules fines, courir après l'heure, les rames bondées, les passes, ton regard, la vie, c'est l'usine, hamster dans sa roue. Michel grand bourreau. Faire la queue partout, font la gueule partout, la vie c'est robot.
T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire. Même si tu te perds, respire, et si tout empire, respire. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire. Même si tu te perds, respire, et si tout empire, respire.
Encore fatigué, la cloche du midi. Le corps assommé, toujours épuisé, les masques sont mis. Triste face à face. Poursuite du bonheur. Reflet dans la glace, les années qui passent flétrissent les fleurs. Ok. Les écrans, le bruit, l'argent, les crédits, les phrases assassines, les cons, les cancers. Le temps qui s'écoule, le vide qui se fait, le silence épais. La vie c'est la guerre tournée dans le tambour. Amour placebo. Faire semblant pour tout, c'est violent partout. La vie c'est Rambo.
T'as le souffle court, respire. Quand rien n'est facile, respire. Même si tu te...
Vous écoutez Priorité Santé sur RFI, émission consacrée aux jeunes auditeurs. Nous continuons d'évoquer le ressenti en cette période de crise sanitaire, impact psychologique, anxiété, incertitude face à l'avenir ou à l'inverse, sérénité et énergie positive. On poursuit notre échange toujours en compagnie de nos deux invités en studio, Dougou Koulo, Alpha Oumar Bakonaré, psychologue clinicien, et Hadja Idriss Abba, étudiante et militante des droits des jeunes et des femmes. On l'a entendu dans les témoignages des auditeurs, l'avenir professionnel est un sujet d'angoisse en soi, hein, Covid ou pas Covid. Est-ce qu'on peut parler d'une génération du confinement, d'une génération du Covid ?
On peut parler de ça, comme on a pu parler avant d'une génération de la guerre froide, comme on a pu parler d'une génération du 11 septembre, comme on a pu parler d'une génération de la guerre en Palestine depuis 70 ans environ. Disons que on peut avoir des générations pour des tas d'événements. Mais la chose que je trouve récurrente quand même, c'est que les États n'arrivent pas toujours à proposer des solutions. Ce que j'entends aussi, c'est qu'il n'y a pas de plan. Et le fait qu'il n'y ait pas de plan, c'est ce qui angoisse finalement. On ne nous dit pas face aux études, il peut y avoir des examens au mois de décembre, on ne nous dit pas quelles sont les alternatives. Je vois dans de nombreux pays que les élèves, les étudiants sont là, ils ne savent pas quand les examens auront lieu, et on ne leur permet pas d'avoir des moyens intermédiaires, d'avoir des demi-mesures qui permettent de continuer à s'instruire. Donc vous êtes là, vous vous dites que c'est une année blanche, vous êtes jeune, vous vous dites que vous êtes en train de perdre une année, et on n'a rien à vous dire de concret. Et donc face à ça, c'est vrai que l'angoisse ne fait que monter. Mais il y a aussi une chose que je trouve importante, c'est le rôle des aînés sociaux. Que l'État n'intervienne pas d'une certaine manière, ok, d'accord, ce sont des choses auxquelles on est peut-être habitué. Pour des doctorants, pour des étudiants, etc., quel est le rôle de leurs enseignants hors du cadre formel ? Quel est le rôle des psychologues? Quel est le rôle des parents? Moi, je vois par exemple avec des jeunes de chez moi, je fais du tutorat, je donne des conseils, je leur permets de continuer à apprendre, je permets parfois à certaines personnes de bénéficier de consultations gratuites.
De s'appuyer sur une expertise,
et on est beaucoup à le faire. Ouais, je fais partie d'un collectif où des jeunes femmes psychologues assurent ça. Donc c'est aussi une manière de contribuer dans une période exceptionnelle.
Et en termes de santé mentale, quel est l'impact justement de cette incertitude face à l'avenir ?
L'incertitude face à l'avenir, elle a un effet que je trouve vraiment majeur. C'est l'effet que je trouverais vraiment le plus insidieux. C'est que ça peut nous dérailler des projets qu'on a qui nous donnaient de l'espoir. On se dit, j'ai pour vocation d'être journaliste, j'ai envie d'aller à l'étranger, j'ai envie d'aller voir des proches à moi, mais je ne le peux pas. Je prends le cas de mon propre pays, le Mali, le Sénégal est juste à côté, mais il y a beaucoup de gens, pour des raisons familiales, personnelles, malgré ça, qui ne pouvaient pas voyager pendant des mois et des mois. Donc ça fait que tout est à l'eau, et ça fait que finalement on perd du souffle, de l'énergie vitale.
Adja Idrissaba, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un sentiment de peur anormalement élevé chez les jeunes, les 19-28 ans ?
Bien sûr que oui. Ce sentiment, on est en train en plus de continuer de le développer parce que nous avons des espoirs, nous sommes en train de perdre espoir sur beaucoup de nos projets. Et par exemple, lorsque nous prenons les étudiants, comme on a écouté tout à l'heure, la situation de comment on l'appelle, Elvira et de Pierrot, nous avons entendu dans leur voix ces espoirs qui sont en train d'être perdus. Mais à un moment donné, on a besoin de nos aînés, comme il a si bien dit, même si à un moment donné, les autorités, les institutions qui sont censées accompagner les jeunes, les redonner confiance ne le font pas, que nos parents agissent. Donc aujourd'hui, nos projets, c'est vrai que nous avons du mal à savoir comment les réaliser. Moi, personnellement, on avait des projets au sein de notre association, mais qui ont été tous bloqués. On est habitué du terrain, mais on est tous bloqués. Par exemple, s'il y a des cas de mariage précoce ou des cas où on doit agir sur le terrain, comme on le faisait avant, on le fait plus de la même manière aujourd'hui à cause, bien sûr, de ce coronavirus.
Donc il faut se réinventer. Garder espoir.
Mais fort malheureusement, c'est pas possible partout dans le monde parce que on n'est pas sur la même étape. En fait, les priorités sont différentes. Quand on prend l'Afrique par exemple, est-ce que la technologie est aussi avancée que ça pour qu'on puisse vraiment adapter la situation avec l'avancée de la technologie? Non, c'est un point d'interrogation. Donc, tout le monde n'est pas équipé de la même manière, tout le monde n'a pas les mêmes formations et les mêmes informations, et donc ça devient un gros décalage entre les sociétés.
Alors, pour continuer à comprendre ces inquiétudes, tout de suite, on va prendre d'autres témoignages, et on va joindre Abdoulaye qui est à Maroua, au Cameroun. Bonjour Abdoulaye.
Bonjour madame.
On vous écoute.
Bonjour madame.
Alors, il va falloir couper votre radio parce qu'on entend l'écho, Abdoulaye. Merci.
Ok.
On vous écoute.
Alors, moi, je suis étudiant en deuxième année à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Maroua. J'avais pour ambition d'être diplomate au départ. Du coup, à travers les deux années d'études à l'université, j'ai un sentiment de désespoir et de crainte vu la situation de mon pays. Et du coup, mon projet pour cette ambition se voit incertaine et je me trouve dans l'obligation de changer de l'objectif pour mon avenir, essayer de voir dans quel autre domaine j'essaierai de gagner ma vie par rapport à mon ambition et mon rêve que je dois enterrer désormais.
Et vous nous avez confié également, Abdoulaye, avoir des inquiétudes par rapport à la crise politique de votre pays, c'est ça ?
Oui, justement, c'est la crise politique de notre pays même aussi contribue fortement à décourager, parce que l'on ne sait pas du jour au lendemain si ça va s'empirer ou ça va s'arrêter, puisque rien n'est envisagé de façon concrète pour arrêter cette évolution des crises.
Une crise qui paralyse le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun.
Oui, justement, la crise qui paralyse les deux régions anglophones du pays, qui ces derniers même jours de la semaine sont de plus en plus graves avec les occupations des séparatistes et les ordres de l'interdiction de sortir sur les populations. Et là, c'est l'ensemble du pays même qui est touché. Du coup, on entend la crise anglophone, la guerre avec les sécessionnistes et consorts. Et la crise au sommet de l'État avec la menace de l'insurrection de l'opposant qui, depuis 2018, continue d'appeler au départ du président de la République. Du coup, on n'est pas confiant et on n'est pas du tout en confiance de savoir si la stabilité du pays atteindra les prochaines élections présidentielles ou le président finira par s'en aller grâce à une révolution ou...
Et donc vous, Abdoulaye, quel est votre projet d'avenir par rapport à tout ce que vous nous expliquez?
Mon projet d'avenir, je pense désormais à m'engager personnellement dans un domaine, mais plutôt politique, où je trouverai ma place aussi, au lieu d'aller dans la diplomatie que je rêvais plus tard.
Donc vous engagez pour votre pays. Dougou Koulo, Alpha Omar Bakonaré, qu'est-ce que vous pourriez répondre à Abdoulaye?
Le pays dont il parle est dans une situation particulière. Depuis plusieurs décennies, on en parle. On ne sait pas s'il y aura une possibilité de solution rapidement. Donc, disons-nous, on est dans une situation critique, une situation qui ne peut que continuer dans ce sens-là. Donc c'est une situation où on ne voit pas vraiment de sortie de tunnel. Moi, ce que je dirais, c'est qu'on est dans une période particulière maintenant où il y a beaucoup de problèmes. Il y a ces questions au nord-ouest, sud-ouest du pays. Mais je dirais, il faut faire attention. On peut avoir ses propres ambitions, mais il y a aussi beaucoup d'opportunisme qui peut venir de la classe politique. Certes, on peut être militant pour les droits civiques, on peut être militant dans des associations, etc. Mais il ne faut pas se laisser embarquer dans des projets de personnes qui ont d'autres agendas, qui peuvent rejoindre les nôtres, mais qui finalement peuvent aussi être des facteurs de distraction, alors qu'on pourrait se concentrer sur soi-même, sur l'apprentissage. Par exemple, Shoaib parlait de ses ambitions par rapport aux Nations Unies. Il y a les clubs de modèles Nations Unies qui permettent de répéter, qui permettent de se former, qui permettent vraiment d'apprendre les uns les autres et qui permettent même politiquement de savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, comment négocier et finalement porter ses propres initiatives. Et une fois de plus, je le dis, ne pas laisser des opportunistes profiter de la crise.
Merci beaucoup pour votre témoignage. On va terminer avec un dernier auditeur, c'est Élie qui est à Goma en RDC. Bonjour Élie.
Bonjour.
On vous écoute rapidement parce qu'on arrive à la fin de notre émission.
Oui, je dirais que nous sommes toujours inquiets aussi. Hein.
On vous entend.
La jeunesse est...
Pas très bien, Élie.
Oui. Vous m'attendez là?
Oui, allez-y.
Je disais que la jeunesse est toujours aussi inquiète par rapport à l'avenir.
Élie, je suis désolée, on vous entend mal, mais je vais me faire porte-parole de votre message. Vous avez 27 ans et vous nous dites que c'est le changement climatique qui vous inquiète le plus. Vous ne savez pas trop quel sera votre avenir, l'impact que ça aura surtout sur votre santé, que l'environnement n'est pas vraiment pris en compte à Goma, en RDC. Adja Idrissa Ba, je me tourne vers vous. Comment vous réagissez à cette angoisse par rapport à la planète, à l'état de la planète?
D'abord, d'un côté, je suis triste de savoir que, enfin, malheureusement, que le côté climat et environnement, ce n'est pas du tout le beau à vivre chez nous. Et de côté, je suis contente d'entendre un jeune qui a quand même ce sentiment-là et qui reconnaît que vraiment c'est une priorité normalement et que ça devait nous inquiéter tous. Donc à ce niveau-là, je pense que ça devrait inquiéter la jeunesse parce que nous sommes la nouvelle génération. Quand on va dans certains coins et recoins de chez nous, quand même, on sait comment on peut pas dire que c'est des dépotoirs de déchets et tout. Mais ça n'inquiète pas forcément nos politiques, ça n'inquiète pas forcément nos leaders. Et ils ont plus de priorités, d'autres priorités que la priorité de la santé des jeunes. Parce que nous vivons dans ça, nous respirons dans ça, attention. Et donc à ce niveau-là, je pense qu'il faut que la jeunesse se réveille, comme notre cher ami Élie, qui est angoissé bien sûr. Donc il faut évidemment se regrouper, se réunir. Et surtout, encore le pire, pendant cette période de Covid-là, imaginez-vous quand ça va reprendre, quand les grosses entreprises vont reprendre leurs différentes aujourd'hui ça, on se sent bien un peu par là parce que il y a quelques entreprises qui ont fermé. Lorsque après le Covid, ça sera compliqué parce que les déchets encore seront ramenés chez nous et
la jeunesse doit s'inquiéter. Donc, on doit se regrouper, on doit se mobiliser, on doit défendre cette cause sanitaire et surtout pour l'environnement, et parce que c'est évident, ça doit être la priorité de tous.
Un mot pour conclure, Dougoukoulou Alpha Omar Bakonaré, rapidement.
Je vais conclure exactement sur cette idée-là, en disant que ces questions d'environnement, ce sont des questions capitales. Le Covid s'est apparu aussi parce qu'on est allé fouiller dans les forêts, on s'en est pris à des animaux, etc. Donc on est obligé de composer avec ça. C'est l'avenir de l'humanité, il faut voir à un niveau macro dès le départ au niveau micro.
Merci à tous les deux d'avoir répondu à l'invitation de Priorité Santé. Dougoukoulou Alma Alpha ou Omar Bakonaré, je rappelle que vous êtes psychologue clinicien. Adja Idriss Aba, on se dit rendez-vous le mois prochain pour donner une nouvelle fois la parole aux jeunes auditeurs. Et comme chaque vendredi, c'est l'heure de la séance de relaxation avec Caroline Paré, le docteur Chaboch.
Et dans Priorité Santé, c'est le moment de vous retrouver. Docteur Adrien Chaboch, bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors vous êtes psychothérapeute, cofondateur du centre Vitruve à Paris. Avec vous, moment de détente, rendez-vous relaxation à la fin de notre émission. On va peut-être commencer tout simplement par expliquer aux auditeurs, docteur Chaboch, le thème de la séance à venir.
Alors aujourd'hui, je vous propose que nous nous rappelions d'une émission qu'on a fait il n'y a pas si longtemps sur le stress justement, et de lier ça. Donc aujourd'hui, on va parler de stress.
Alors, on parle toujours aussi du matériel, de la posture ou du cadre particulier pour ce type d'exercice. Qu'est-ce que vous nous conseillez aujourd'hui ?
Alors pour aujourd'hui, très simplement, assis, si vous êtes assise, c'est votre cas Caroline, ou pour nos auditeurs. Si vous vous êtes allongé, je vous proposerai éventuellement de vous redresser un petit peu pour être en fait dans une posture comme quand vous apprenez quelque chose. Quand on apprend quelque chose, on est un petit peu redressé. Voilà, on ouvre un peu les épaules, on laisse les bras longs du corps pour être dans une posture positive et confortable.
Alors tout ça, ça va se passer en temps réel, on suit vos indications et on se laisse bercer par le rythme de votre voix. À vous la parole, docteur Chaboch.
Voilà, suivez la voie, comme on pourrait dire, avec un jeu de mots. C'est à la fois le chemin qu'on va emprunter et à la fois je vous accompagne. Avec ce stress dont on parle, la rentrée, tous les événements, bref, on ne va pas le répéter. Le stress me prend et je ne sais plus ce qui me prend. Prenez le temps de vous concentrer sur une situation de stress. Que me dit-il ? Il me dit de me concentrer sur une situation de stress alors qu'on aurait souhaité se déstresser. Oui, c'est normal. Il faut comprendre ce qui se passe. Dans le calme, la tranquillité, on se concentre dessus, une situation de stress de la vie de tous les jours. Une petite situation de stress, bien sûr, pour nous entraîner. Et pour nous entraîner, déjà, vos pensées s'y dirigent. Je le vois, je le sens. Vous y pensez, vous l'imaginez. Et déjà, vous apprenez quelque chose de vous. L'imaginez-vous visuellement ? Ah, c'est intéressant. À moins que ce ne soit vos oreilles qui s'y réfèrent. J'entends des voix, j'entends la voix du professeur, la voix du chef, la voix de mon voisin, que sais-je. Ou est-ce que c'est votre corps, vous ressentez ? Vous ressentez dans votre corps, dans vos mains, ces effets du stress ? Approchons-nous encore un petit peu. Laissez-vous guider. Nous n'avons peur de rien. Nous connaissons ce qu'on peut faire. Et vous ressentez alors les battements du cœur qui se sont déjà accélérés, vous l'avez remarqué. Les tensions musculaires, peut-être c'est le dos, oui, le ventre, oui, les viscères, oui. Mais n'oublions pas vos jambes, les mollets, les cuisses, peut-être même des pensées toutes tendues dans la boîte crânienne, dans nos têtes, qui rebondissent les unes contre les autres. Apprenons encore de nous, encore un petit peu. Voyez, vous êtes assis, vous êtes bien installé. Nous pensons au stress, nous l'observons comme nous le ferions si nous étions, allez, médecins, scientifiques, observateurs. On regarde, on observe, on ne juge pas, on sent, sans avoir à y penser déjà, il se passe quelque chose. Est-ce ma voix ou la voix qui résonne entre vous ? Est-ce que c'est la position ? Certainement, en tout cas, ce sont vos ressources intérieures. Nous ne faisons rien d'autre que d'être présent à ce que nous ressentons, d'être conscient de cela. Et nous sommes conscients ensemble, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes accompagné. Cet accompagnement nous aide, on est ensemble, et maintenant déjà vous avez observé des changements dans votre corps. Est-ce que ce sont les battements du cœur qui sont maintenant ni trop lents, ni trop rapides, à moins que les muscles, ni trop tendus, pas non plus tout relâchés, mais entre les deux, et de l'air, entre vos pensées, un peu d'espace, quelques blancs, quelques vides, qui aèrent, qui nous aident à respirer. Voilà une respiration profonde qui vous vient naturellement comme une bouffée d'air. Voyez comme vos ressources vous guident naturellement vers ce qu'il vous faut, vers l'essentiel. Votre corps vous aide, c'est notre support. Vous y voyez plus clair ? C'est normal. Vous ressentez plus fort, c'est tout à fait adapté. Et déjà, alors, c'est votre cerveau, c'est votre esprit, ce sont vos pensées, votre manière de réfléchir. Alors, voyez-vous maintenant cette situation de stress différemment ? De quelle manière ? À moins que ce ne soit vos oreilles qui entendent autrement ? Ah, ou bien une posture dans votre corps différente, un léger ajustement, un léger réglage intérieur, comme une fine horlogerie que vous êtes, comme une posture plus agréable. C'est sympathique parce qu'en plus ça fait du bien et en plus on apprend des choses sans effort. Et maintenant, cette situation vous apparaît vraiment très différente. Vous en remarquez tout ce qui a changé. Qu'est-ce qui vous aide ? Est-ce que c'est... Vous vous sentez déterminé ? Vous avez relativisé ? À moins que ce ne soit le courage qui est en vous maintenant qui s'exprime. La confiance ? L'estime ? Vous apprenez de vous, car vous vous rappelez, vous vous êtes rappelé déjà peut-être, de certaines autres expériences que vous avez menées. Vous avez vécu des expériences d'apprentissage. Vous rappelez-vous de la première fois où vous avez fait du vélo ? Vous avez lâché votre père, votre mère, et vous avez avancé tout seul, toute seule. Vous avez nagé peut-être la première fois, vous avez sauté peut-être la première fois, et vous ne saviez pas le faire avant. Mais on y va en sérénité, on y va en calme. Voilà ces expériences d'apprentissage. On se rappelle de l'essentiel. Notre attention, notre conscience est là à ce qui est essentiel. Alors cette situation de stress qui a déjà beaucoup changé, que reste-t-elle ? Y a-t-il d'autres choses ? Ou bien est-ce qu'elle paraît relative ? Est-ce qu'il y a d'autres choses dans votre vie peut-être plus importantes, plus nécessaires à vous ? De quoi avez-vous vraiment besoin ? Qu'est-ce qui vous protège maintenant ? Bien, voyez votre corps, voyez comme vous vous sentez bien. Déjà, vous avez repris une posture, vous avez rebougé, ça y est, c'est naturel, vous y êtes, on y est, Caroline. Une aération, on est allé voir notre stress, on en revient, comme d'un puits, on puise de bonnes ressources. Vous vous en souviendrez, c'est notre marque-page d'aujourd'hui, à se rappeler dans les jours à venir.
Et on a respiré, hein, on a pris justement du temps, une pause justement pour... Aller en soi-même, essayer de comprendre ce qui se passe. On vous remercie infiniment, hein, docteur Adrien Chaboch, de nous avoir fait partager ce moment de calme. On se met à l'écoute et ça fait du bien. Merci, à très bientôt.
À bientôt, Caroline.
Je rappelle que vous êtes psychothérapeute, cofondateur du Centre Vitruve à Paris.
Et notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe, Astou Samake, Ophélie Lassen, Juliette Brault et Steven Elsley à la réalisation. Lundi, vous retrouverez Caroline Paré pour parler du charlatanisme. Rendez-vous donc lundi à 9h10 en temps universel. Et d'ici là, bonne journée sur RFI.
Des priorités santé avec les sociétés Suno Assurance qui, au Mali et en Centrafrique, ont fusionné avec les sociétés Alliance et portent désormais la dénomination Suno Assurance. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.